Henri Adam de Villiers, bonsoir.
Bonsoir Benjamin.
Donc je rappelle que vous êtes maître de chapelle de la Scola Sainte-Cécile, qui chante notamment à la paroisse Saint-Eugène dans le 9e arrondissement, et de la paroisse de la Très Sainte Trinité, qui est la paroisse russe catholique, juste à côté de Radio Courtoisie, dans le 16e arrondissement. Donc, après avoir décortiqué la liturgie assyrienne de l'ancienne église de l'Orient, qui pour, et de sa partie catholique, l'église chaldéenne, donc nous arrivons maintenant...
Alors on aurait pu parler aussi de l'office divin, de la spiritualité, de plein d'autres choses. On a vu que la liturgie de la messe, et finalement c'est ce qu'on va faire, je pense, avec les autres rites, les autres familles orientales, et découvrir comment chaque tradition célèbre la sainte liturgie de la messe en fait.
Donc mais après, si un jour on veut passer à l'office divin,
à l'année liturgique,
on a le temps. Hein, ouais. c'est la chance que nous avons sur les ondes de Radio Courtoisie.
Tout à fait.
Alors donc là, l'église assyrienne et chaldéenne sont des églises issues d'une première division de l'église lors du concile d'Éphèse, le troisième concile œcuménique. Et ensuite, comme on l'avait vu dans notre première série d'émissions, Église d'Orient, pourquoi autant de divisions, est arrivé le quatrième concile œcuménique, le concile de Chalcédoine, donc en 451, si ma mémoire est fidèle. Et suite à ce concile, il y a également eu de nombreuses divisions, politiques, soit théologiques, soit
ethnique, autres. Ethniques, oui, également.
Pardon ?
Ethniques également.
Ethniques et parfois même linguistiques.
Voilà, c'est un facteur qui a joué, et on va le voir aujourd'hui avec l'église syriaque.
Et donc parmi ces églises qui sont nées des suites de Chalcédoine, il y a l'église syriaque qui va nous occuper au moins aujourd'hui, mais sûrement le mois prochain.
Sans doute.
Voilà. Alors on va commencer, comme il se doit, par la fondation de cette église syriaque. Comment a-t-elle été fondée? On l'avait abordé rapidement dans notre précédente série, mais je pense qu'il est nécessaire de préciser, peut-être
de faire
s'y
un petit
attarder,
rappel, oui.
Un peu plus.
Donc à Chalcédoine, en fait, les évêques se sont réunis pour condamner les théories d'un certain Eutychès, qui voulait que dans le Christ, la nature humaine avait disparu, en fait, comme une goutte d'eau dans un océan face à la nature divine. Et cette position extrême et excessive était condamnable. Néanmoins, beaucoup de pères de l'Église en Orient ont eu peur que la théologie de Saint Cyrille d'Alexandrie souffre de cette condamnation, en fait, parce que certaines formules de Saint Cyrille pouvaient être interprétées également différemment de la définition donnée à Chalcédoine de deux natures unies dans le Christ. Et donc, ces églises vont pas professer le monophysisme effectif de Tychès, mais vont avoir des positions un peu plus tranchées. En tout cas, elles vont se réunir sur le refus du concile de Chalcédoine. Et les opposants du concile de Chalcédoine, il y en a un peu partout dans l'Empire d'Orient, à cette époque, au 5e siècle. Et selon les révolutions de Palais à Constantinople, l'empereur va être plutôt favorable au parti chalcédonien ou parfois plutôt favorable au parti anti-chalcédonien.
On avait vu que souvent les querelles entre les églises, c'était d'abord des querelles internes à l'Orient, oui. Finalement Rome y était assez peu mêlé,
et
souvent encore plus des querelles internes à Constantinople,
à la cour impériale.
Au palais impérial.
Oui. Et parfois des partis en présence dans la capitale de Constantinople et qui pouvaient s'affronter et être concurrents dans l'hippodrome. Enfin bon, donc tout ça nous éloigne parfois un peu de la théologie pure. En tout cas, il y a d'autres considérations qui, hélas, ont divisé les chrétiens et il ne faut pas les oublier. Donc ce serait un peu un abus de considérer ces églises qui ont refusé Chalcédoine comme des églises monophysites. On parle en général de miaphysisme pour indiquer une forme adoucie du refus théologique de Chalcédoine.
En fait. Voilà. Peut-être que certaines sont plus monophysites que d'autres. Ce qui m'avait semblé qu'en Éthiopie...
Oui, alors après, les clercs sur place ne sont pas toujours non plus très au fait de certaines nuances et parfois peuvent tenir des positions qui peuvent être un peu surprenantes même vis-à-vis de la doctrine officielle de leur église. Mais en tout cas, il y a des querelles dans le patriarcat d'Antioche assez importantes puisque pendant, à la suite de Chalcédoine, il ne va pas cesser d'avoir une alternance de patriarches sur le siège d'Antioche qui vont être tantôt chalcédoniens, tantôt anti-chalcédoniens. Et ça va durer jusqu'au début du 6e siècle avec Sévère d'Antioche qui est le dernier grand patriarche qui refuse Chalcédoine. Et par ailleurs, un très grand auteur théologique, un grand compositeur d'hymnes.
Pour que les auditeurs de Radio Courtoisie comprennent bien, il était patriarche d'Antioche,
il était grec,
mais il était encore reconnu, en communion avec Constantinople.
Il a été déposé à peu près 3 ou 4 fois, à chaque fois il est revenu sur son trône, et puis il a fini en exil en Égypte. Et après lui, le patriarche d'Antioche a été systématiquement chalcédonien. Et donc le parti anti-chalcédonien en Syrie a eu du mal car la plupart de ses évêques ont été successivement éliminés par le pouvoir impérial. Et donc la dissension, le schisme, en tout cas en Syrie, était en voie d'extinction jusqu'à ce que par des intrigues de palais à la cour impériale, l'impératrice Théodora, femme de Justinien, qui elle était plutôt anti-chalcédonienne parce qu'elle avait été formée en Égypte dans sa jeunesse, favoriser l'ordination de 2 évêques pour les Arabes gassanides, c'est-à-dire ces supplétifs arabes de l'Empire byzantin qui sont sur les limes, sur les frontières de l'Empire en Syrie et Jordanie actuelle, disons, et qui sont des chrétiens déjà depuis un certain temps et qui demandent parce que des évêques anti-chalcédoniens. Donc on en ordonne 2, dont Jacques Baradaï.
Et pourquoi ? Est-ce qu'on a une idée ?
Probablement, là encore, par volonté centripète de se détacher quelque part de la théologie officielle qui avait cours à Constantinople et du coup de gagner en autonomie, probablement. Enfin, c'est un élément politique, géopolitique qui a dû jouer, entre autres. Hein. Jacques Baradaï se fait sacré évêque tout à fait régulièrement. Et c'est lui qui va reconstituer une hiérarchie syrienne.
Non-chalcédonienne.
Qu'on traitera volontiers, nous, catholiques, de monophysite par la suite, mais... Actuellement, on évite d'employer ce terme car effectivement, la réalité de la théologie de cette église n'a jamais été proprement monophysite. Jacques Baradaï va sillonner toute la Syrie et également l'Asie mineure et va s'attacher à ordonner un évêque à chaque fois qu'il y avait un évêque en place. Donc, c'est la première fois où on assiste à un dédoublement complet d'une hiérarchie ecclésiastique, ce qui choque beaucoup un peu les esprits quand même à l'époque.
Oui, parce que plus à l'est, là où est née l'église nestorienne, donc l'église assyrienne, il n'y avait pas d'autres évêques que ceux de l'église séparée.
Voilà, c'était les évêques de l'église de Perse, qui étaient sous la domination perse, qui en bloc ont choisi de ne pas adhérer au concile d'Éphèse et de se faire sécession avec le reste de l'église et de se couper de le reste de l'église. Mais il n'y a pas eu une hiérarchie qui s'est constituée en concurrence d'une première, en fait. Et ça, c'est une grande première quand même dans l'histoire de l'Église, cette double hiérarchie qui se met en place. Alors cette Église, on va la baptiser de Jacobite à cause de Jacques Baradaï, son successeur. Et d'ailleurs, la date de 543, la date de l'ordination de Jacques Baradaï, est encore proposée par les descendants de cette Église actuelle comme date de fondation de leur Église, en fait. Ces Églises vont prospérer, ils vont avoir du mal quand même à s'implanter à Antioche même, qui est la grande ville chrétienne de tout l'Orient, la capitale de l'Orient, de la province romaine de l'Orient, et qui est aussi le premier siège métropolitain chrétien. C'est là où les chrétiens ont reçu leur nom pour la première fois. La ville a reçu la prédication de Barnabé, de Paul, de Pierre. Saint-Pierre a été évêque d'Antioche avant de devenir évêque de Rome. Le siège d'Antioche jouit d'une grande autorité, d'une grande prépondérance.
Puisque il rayonne sur toute l'Asie, en fait.
Oui, oui, oui. Et les Jacobites, les disciples de Jacques, vont mettre plusieurs siècles avant de pouvoir ouvrir une église dans Antioche. Alors, ils auront leur chef qui s'appellera patriarche d'Antioche, la ville de Dieu et de tout l'Orient, mais qui ne pourra de fait jamais siéger à Antioche même. Le pouvoir impérial byzantin va garder le contrôle d'Antioche jusqu'à la conquête musulmane.
Et donc en fait, ils pourront s'installer à Antioche uniquement après la conquête musulmane,
oui,
c'est bien
oui,
ça.
Oui, voilà.
Ironie de l'histoire.
Oui, oui, d'ailleurs, en fait, comme cette église jacobite a été persécutée par le pouvoir impérial chalcédonien, évidemment, ils vont accueillir avec plutôt bienveillance les premiers musulmans. Et sans doute, ça prête à controverse sur certains points, mais sans doute favoriser quand même l'implantation politique de l'islam en Syrie, en fait.
Alors, on dit parfois qu'ils auraient ouvert les portes
de
Damas, mais c'est très contesté là-bas.
Voilà. Bon, on sait que le siège de Damas... Enfin, c'est
une histoire qu'on raconte couramment. Les Syriaques syriens le nient farouchement.
Oui. Mais bon, c'est plausible, en tout cas. Alors, cette église d'Antioche, en fait, actuellement, elle est représentée dans diverses branches. Il y a bien sûr l'église qui s'intitule Syriaque orthodoxe. Alors, ce terme d'orthodoxe est un peu problématique parce que, évidemment, eux pensent avoir la vraie foi, orthodoxa, la vraie foi, et donc dénient ce terme à tout le reste de la chrétienté, y compris les Grecs et les Russes. Et c'est vrai que beaucoup de fidèles associent quand même mentalement maintenant l'orthodoxie syriaque à l'orthodoxie grecque, alors que ça n'a rien à voir au niveau canonique, au niveau historique. Le nombre de conciles reconnus de part et d'autre n'est absolument pas le même, et ainsi de suite. Donc, en tout cas, cette église...
La cause de la division, c'était bien une querelle entre les Syriaques et les Grecs, et Constantinople.
Cette église syriaque orthodoxe est gouvernée depuis 2014 par Ignace Ephraim de Karim, qui réside à Damas. Le patriarcat s'est un peu déplacé au cours des siècles. Il a longtemps été dans le Tourabdin, c'est-à-dire cette belle région au nord de l'Euphrate, dans les confins de la Syrie et de la Turquie actuelle. Et voilà, alors il s'appelle Ignace, comme tous les patriarches de cette église depuis le 15e siècle, en souvenir de Saint Ignace d'Antioche, qui était un des tout premiers évêques successeurs de Saint Pierre, et qui est le grand martyr au début du second siècle, qui a laissé une admirable correspondance lorsqu'il est conduit à Rome pour être dévoré par les lions. Et il écrit aux différentes églises sur sa route pour leur donner des conseils spirituels. Ces lettres sont admirables. Si vous avez l'occasion de les lire, n'hésitez pas, c'est sans doute un sommet de la littérature patristique. Donc, c'est une des grandes figures du patriarcat d'Antioche, Saint Ignace d'Antioche, bien sûr.
Alors, donc, en résidence à Damas, c'est voilà. Sa cathédrale, c'est la cathédrale Saint-Georges, donc dans la rue de Babtouma, la porte de Thomas. Donc, il y a toute une enfilade d'églises, de cathédrales qui sont là. Donc il est juste à côté de l'église des Franciscains et de la cathédrale maronite, à deux pas de l'église chaldéenne. Alors vous voyez, il y a une forte concentration.
Il est un peu contesté en ce moment, je ne sais pas si on peut se...
Non, c'est terminé.
C'est fini.
Ça s'est réglé, mais je pense que ça avait assez peu d'intérêt. Ça a été réglé.
Oui, les évêques ont été un peu susceptibles sur certains points de détail. Mais en tout cas...
Ça a été réglé par la Vox Populi.
C'est difficile de savoir sur combien de troupes il règne exactement. Certains chiffres donnent 4,5 millions fidèles dans le monde.
Dont une grande majorité en Inde.
Inde, voilà.
C'est en tout cas, selon lui, moi, quand je m'entretiens avec lui, c'est à peu près le chiffre qu'il donne, mais il dit là-dessus, il y en a peut-être 3 millions en Inde.
Oui, 3 500 000, j'avais lu. Et en fait, cette église d'Inde, elle n'a pas été le fruit de l'évangélisation de l'église syriaque, mais On en a parlé déjà, saint Thomas est allé en Inde et l'église qu'il a fondée là-bas dans le sud de l'Inde s'est rattachée à celle que saint Thomas avait fondée en Mésopotamie, c'est-à-dire à l'église syrienne orientale, celle de l'Orient, les Assyro-Chaldéens actuels. Le drame, c'est que c'est lorsque les Portugais ont découvert ces chrétiens au XVIe siècle, ils ont été d'une part enthousiasmés de trouver des chrétiens en Inde et d'autre part, ils ont cherché absolument à les latiniser à outrance et ça n'a évidemment pas été très bien accepté sur place. Donc la liturgie a été modifiée pour adopter le maximum de coutumes latines. Et par réaction, une partie de ces fidèles de tradition syriaque orientale s'est détournée de l'Église catholique et a refusé la latinisation et s'est raccrochée de façon tout à fait surprenante à l'autre tradition syriaque, celle de l'Occident, celle d'Antioche, et non plus celle de Bagdad.
Est-ce qu'on sait pourquoi ils ne sont pas rattachés à leur tradition d'origine? C'était trop faible, peut-être?
Oui, enfin, les contacts n'ont pas dû se faire avec le patriarcat assyrien. C'est un peu étonnant, effectivement, d'autant que théologiquement, c'est passé en, bon, je schématise bien sûr, mais du nestorianisme à l'hérésie totalement inverse, le monophysisme. Enfin, ni les uns ni les autres étaient totalement nestoriens et totalement monophysites, mais c'était quand même des tendances. Et on passe d'une lecture de la christologie à une autre, et toutes les deux sont radicalement différentes. Bon, en tout cas, cette église s'est constituée en Inde. Elle est autonome. Son titulaire porte le titre, a repris le titre de Mafrien, qui était un titre médiéval de l'église syriaque orthodoxe, qui au départ désignait un métropolite qui était autonome et qui avait la main sur les diocèses dans l'Irak et la Perse actuelle, en fait, hein, et l'Iran actuel. Et donc, ça reconnaît en fait une certaine autonomie. Et malheureusement, cette église s'est elle-même subdivisée. Donc, il existe un schisme en son sein et il existe une autre église qui s'intitule Malankar orthodoxe, 1 million de fidèles, qui a rompu avec Antioche en 1975 pour proclamer son indépendance totale.
Mais il me semble qu'il y a des discussions en cours avec
pour le rattachement.
Avec les Syro-Malankar officiels, non?
Alors, il y a d'autres scissions, des petites églises syriaques qui, elles, se sont détachées du patriarcat officiel pour se rattacher à l'église Malankar qui a fait sécession en Inde. Bon. Mais c'est des groupes assez insignifiants. En tout cas, disons que...
Je sais que depuis son élection, le patriarche Afram s'est rendu, en fait, dans les mois qui ont suivi son élection, a fait un long voyage en Inde. De plus de 3 semaines, où il est allé à la rencontre vraiment de toutes les communautés. Alors, il m'avait montré son livre... Le livre souvenir du voyage, c'était incroyable de voir les foules qui y avait. Hein. Alors, c'est vrai que les Indiens sont populeux. Et il a eu beaucoup de discussions. Alors déjà interne à l'Église, puisque le patriarche précédent est resté très longtemps, était très âgé, affaibli à la fin, et donc il y avait beaucoup de problèmes internes, notamment en Inde, puisque c'est loin de Damas, et puis il y avait notamment avec la guerre, etc. Et donc il s'est beaucoup employé pour mettre fin à ces tensions qui allaient aboutir à une séparation. Et je sais qu'il y a beaucoup de discussions pour réconcilier les deux branches et que ça ne semble pas complètement désespéré.
Notamment, il y avait des excommunications en cas de mariage. Entre membres des deux églises, et ça a été levé, donc on est quand même sur la voie de la réconciliation, et tant mieux. D'autant que cette église en Inde est très dynamique et a un bel élan missionnaire, en fait, hein, non seulement dans le sud de l'Inde, mais ouvre des missions un peu partout dans le pays, y compris dans le nord de l'Inde. Ils sont très dynamiques sur Internet, on trouve beaucoup de ressources. Ils ouvrent aussi beaucoup d'églises dans les pays du Golfe.
Alors vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France de Benjamin Blanchard. Je reçois dans cette première partie Henri-Adam de Villiers, maître de chapelle à la paroisse Saint-Eugène dans le 9e arrondissement de Paris et de la paroisse de la Très-Sainte-Trinité des Russes catholiques à Paris 16e. Et nous parlons, dans le cadre de notre cycle d'émissions à la découverte des églises d'Orient, nous étudions les églises syriaques ce soir.
Alors, à côté de cette église syriaque orthodoxe, il existe une branche catholique.
Mais alors, je voudrais quand même dire un mot sur l'église syriaque orthodoxe, parce que oui, l'église indienne est très dynamique, mais l'église, la branche principale, donc de leur siège à Damas, est également très dynamique, et notamment le patriarche Afram a vraiment fait souffler un vent d'énergie et de dynamisme pour l'évangélisation, pour également le renforcement de la foi dans les fidèles et du sens de l'Église parmi les fidèles. Et il a mis en place également des grandes rencontres annuelles mondiales. Donc ça va être la troisième année cette année pour la jeunesse. Donc la première année, c'était au Liban. L'an dernier, aux Pays-Bas. Et cette année, c'est de nouveau au Liban. Et donc, il y aura des jeunes syriaques orthodoxes de la diaspora du monde entier qui viendront. Bien sûr, du Liban et bien sûr de l'Inde. Il y aura une forte délégation indienne également. Et puis également alors quelques Irakiens, donc ils seront 30 d'Irak qui viendront grâce à SOS Chrétien d'Orient, donc qui va aider à venir, et puis également quelques Syriens, et donc là aussi c'est très important pour que les Syriaques les Syriaques se rencontrent, se connaissent, et notamment pour ceux qui sont dans la diaspora, qui gardent un lien avec leur co-religionnaires qui sont restés dans leur pays, et peut-être un jour penser à un retour si la situation sécuritaire s'améliore. Et puis également, comme pour la Syrie, l'Irak, c'est difficile de les déplacer, notamment à cause du coût. Donc le patriarcat organise des journées de la jeunesse locales, donc en Irak et en Syrie et en Inde aussi, où il y aura des centaines et des centaines de jeunes, et donc notamment en Syrie, ce sera en septembre. Et là aussi, SOS Chrétien d'Orient va prendre part à une part matérielle dans cette organisation. Et puis également, on pense qu'on est en train de voir pour peut-être un témoignage de Français qui viennent s'installer en Syrie, etc., pour montrer aux jeunes qu'il n'y a pas toujours que le chemin inverse. Et tout ça pour dire que cette église se préoccupe beaucoup de sa jeunesse, et puis notamment à travers des écoles. Il y a énormément d'écoles qui sont construites, de centres de catéchèse, d'activités pour les jeunes. Et c'est vraiment quelque chose qui importe beaucoup au patriarche Afram, c'est l'encadrement de la jeunesse et l'éducation religieuse de la jeunesse. Voilà. Donc maintenant, nous allons parler des branches catholiques.
La branche catholique, oui, bien sûr, qui est plus modeste, en nombre en tout cas. Je crois qu'elle doit tourner autour de 150 000 peut-être fidèles.
Oui, 200 000 peut-être.
Bon. Son patriarche est aussi patriarche d'Antioche, la ville de Dieu et de tout l'Orient. Son titulaire est mort Ignace Joseph III Younan, qui réside au Liban.
Près de Beyrouth.
Près de Beyrouth, à Charfé.
Exactement.
Qui est un grand couvent.
Très bel endroit.
Avec des trésors de manuscrits syriaques qui sont conservés là de façon assez ancienne. Alors, c'est une petite communauté qui est née assez récemment, qui a son origine à Alep, car les premiers syriaques orthodoxes à vouloir devenir catholiques étaient à Alep. En fait, ce sont des missions capucines et jésuites au XVIIe siècle qui à déterminer ces chrétiens à vouloir devenir catholiques. Et puis il y a eu quelque chose d'assez fameux à la fin du XVIIIe siècle. Le synode des évêques syriaques jacobites a élu son patriarche, ils ont choisi l'archevêque d'Alep, et celui-ci, juste après son élection, annonce qu'il devient catholique. Et alors ça s'est pas très très bien passé. Mais à partir de là, en tout cas, date l'établissement définitif de cette église.
Alors donc cette église est présente bien sûr au Liban, en Syrie également, et puis en Irak, donc notamment dans la plaine de Ninive, et notamment la ville de Karakoche, qui est vraiment le grand centre syriaque catholique, où 80% de la population, avant l'exode de 2014, suite à l'invasion de Daesh, 80% de la population était syriaque catholique. Et c'est pour ça que pour les syriaques catholiques, c'est extrêmement important de pouvoir revenir à Karakoche, puisque c'est leur seul lieu de peuplement cohérent, on va dire.
Oui, traditionnel.
Donc il y a deux évêques pour l'Irak, donc l'archevêché de Bagdad, de Basra et de tout le Golfe, Donc il y a un siège à Bagdad, il y a l'évêché du Nord, donc de Mossoul, Karakoch et tout le Kurdistan. Et puis il y a quatre évêchés en Syrie, donc Asaké pour le Nord-Est, Alep, Homs, Hama et Nobek. Et enfin Damas. Et puis également quelques évêchés au Liban. Et puis enfin la diaspora, bien sûr, comme toujours et notamment
comme à Paris,
avec Saint-Éphrem, le Syrien,
qui est 17 rue des Carmes, dans le 5e arrondissement de Paris. Si vous voulez découvrir cette liturgie dont nous allons parler, n'hésitez pas. Je crois qu'elle est à 11h le dimanche.
Et puis vous avez également, si vous le souhaitez, les Syriaques orthodoxes, dits jacobites, qui sont alors là au nord de Paris, à Montfermeil. Et donc la liturgie est à 10h, je crois, tous les dimanches.
Très bien.
ce qu'on disait dans les émissions précédentes, pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui sont parisiens, ils ont la possibilité de découvrir
on a absolument toutes les
traditions liturgiques, de faire un voyage dans le temps et autour du monde sans quitter Paris et l'agglomération. Et je crois qu'il y a également des églises syriaques en Inde, des églises syriaques catholiques en Inde.
Oui,
mais qui sont totalement séparées du patriarcat de Beyrouth.
De Beyrouth, oui. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
je me demande même s'il n'y a pas une tentative de créer une église anglicane Malankar en Inde en détachant des syriaques jacobites pendant le temps de la domination anglaise quelques fidèles. Mais la situation du sud de l'Inde est un peu inextricable parce qu'on a des dédoublements d'églises les unes à côté des autres. Et c'est une chrétienté malgré tout en pleine efflorescence qui est maintenant majoritaire au Kerala et qui commence à essaimer un peu partout dans le pays, en fait.
Donc les Malankars, ce sont ceux qui sont rattachés aux jacobites.
Voilà.
Et il y a des Malankars catholiques.
Voilà. Donc en Inde, traditionnellement, la liturgie, c'était la liturgie syriaque orientale, c'est-à-dire la branche de Mésopotamie. Et à partir du moment où...
Il en reste.
Alors, il en reste des catholiques et plusieurs églises à nouveau, plus ou moins rattachées, rattachées à l'église d'Orient.
Ou
plus ou moins autonomes. J'ai plus en tête leur titulature officielle, mais c'est pas grand chose en fait. La plupart d'entre eux sont catholiques. Donc c'est l'église du Malabar. Et les Malabars sont donc de rite syriaque oriental, tandis que les Malankars sont de rite syriaque occidental. Et on a parlé la fois précédente de la liturgie syriaque orientale, et nous voyons aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, la liturgie syriaque occidentale. La frontière historique est une frontière linguistique plus ou moins marquée par l'Euphrate, c'est-à-dire qu'à l'est de l'Euphrate, on prononçait plutôt en vocalisant A certains mots et O à partir de l'Occident, en fait. Donc la plaine de Syrie, Édesse étant un peu à cheval entre les deux.
Voilà, et donc là on a vu une église syriaque dite orthodoxe ou jacobite, donc en siège à Damas, avec une branche en Inde, donc les Syro-Malankars, elle-même avec parfois de multiples divisions, et une petite branche catholique, syriaque catholique, en siège à Charfé au Liban, et avec également
une branche
Malankar catholique en Inde.
En Inde.
Et on va également mentionner, puisque ça sera l'objet d'une émission ultérieure, l'église maronite, donc, qui est catholique et qui est de tradition syriaque, mais qui a une histoire tout à fait particulière, donc on ne va pas traiter, et puis même une liturgie.
Une liturgie un peu différente, avec quand même des points communs, bien sûr, mais...
Mais donc,
qui a eu son évolution propre.
On ne fait que la mentionner pour ne pas les oublier, mais on renvoie les auditeurs à une émission ultérieure. Alors donc là, vous avez un aperçu des églises actuelles et de leur organisation. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation des lieux de culte?
Alors les églises dans cette tradition syriaque ont conservé en fait des éléments très anciens et qu'on retrouvera dans bien d'autres traditions chrétiennes évidemment. Il y a une division un peu trinitaire du bâtiment. En général, on aura toujours une nef centrale et deux bas-côtés. Et surtout, une autre division importante, c'est que l'espace va être divisé en trois parties bien marquées. Le sanctuaire où a lieu le sacrifice, le chœur qui est placé devant le sanctuaire, finalement ce qu'on connaît dans l'église occidentale. Si vous regardez le chœur de nos cathédrales, on a le sanctuaire au fond et avec quelques marches pour monter au maître-autel et puis le chœur avec les stalles des chanoines devant et la nef où se tient le peuple devant le chœur en fait. Dans le sanctuaire, on a toujours en général trois autels. Le maître-autel principal, qu'eux appellent Tronos, un mot grec. En fait, ils ont conservé pas mal de terminologie grecque. Donc le trône pour le dire la messe.
C'est amusant, puisqu'ils étaient un peu persécutés par les Grecs.
Oui. Mais à l'origine, en fait, la distinction, enfin on pourra en reparler, mais le bilinguisme grec et syriaque, grec-araméen, n'était pas fondé sur les divisions théologiques. Donc, il pouvait y avoir des anti-chalcédoniens grecs et des chalcédoniens d'expression araméenne. Et donc, il y a beaucoup d'expressions grecques.
On trouve encore un exemple. À Maloula, oui. en Syrie, puisque ce village, tout le monde parle araméen. Mmh. Et d'ailleurs, l'araméen plus proche de l'araméen originel que des dialectes syriaques occidentales ou orientales, alors même qu'ils ne sont pas du tout syriaques, ils sont tous grecs, soit orthodoxes, soit catholiques.
Oui. Enfin, ils sont melkites, c'est-à-dire qu'ils sont fidèles au pouvoir du roi, c'est-à-dire le roi de Constantinople, l'empereur byzantin. Et donc, on a un autel principal pour la messe, et puis à droite et à gauche de cet autel, on va en général trouver deux petits autels qui sont des sortes de crédences et sur lesquels on va poser les vases sacrés, les livres liturgiques et éventuellement. Ce qui est intéressant, c'est que le maître-autel, le tronos, est surmonté toujours d'un baldaquin avec quatre colonnes, comme à Saint-Pierre de Rome, comme à Saint-Jean de Latran, comme à Sainte-Marie-Majeure. En fait, ce baldaquin, c'est une disposition primitive. Voilà. C'est une disposition primitive des premières églises. Et les églises syriaques sont restées fidèles à cette obligation. On avait aussi un baldaquin dans Sainte-Sophie, par exemple. Si vous allez dans des vieilles églises antiques, comme à la basilique Saint-Ambroise de Milan, le maître-autel est toujours surmonté de ces quatre colonnes, de cette petite construction, qui a pour but d'honorer l'emplacement où a lieu le Saint-Sacrifice de la messe. Il en reste des choses dans le rite occidental. Par exemple, à Malte, on ne place plus vraiment des baldaquins, mais on garde toujours au-dessus du maître-autel on suspend une construction. Il n'y a plus les colonnes, mais il y a juste le haut du baldaquin, en quelque sorte, au-dessus de l'autel.
Tiens, comment ?
Il est suspendu par une corde depuis le haut de la nef, du toit de l'église.
Alors, il y a également un rideau.
Il y a le rideau, voilà, j'y venais. Le voile du sanctuaire, le voile du temple de Jérusalem, et que les chrétiens ont transposé dans leurs églises très tôt, semble-t-il, et qui est un élément permanent de toutes les traditions. On l'a perdu en Occident, pas forcément il y a si longtemps. À Paris, on avait encore des rideaux dans les sanctuaires en carême jusqu'à la fin du 19e siècle, en 1861. C'était pas si ancien que ça. Ils ont complètement disparu de nos jours, mais en tout cas, dans les églises orientales, on a toujours un rideau.
Il a été également perdu à Byzance, dans le rite byzantin, puisqu'il a été remplacé par l'iconostase.
Non, parce que Benjamin, si vous regardez bien, il y a toujours un rideau sur l'iconostase. En fait, l'iconostase n'est jamais qu'une tringle à rideau, j'exagère, mais en fait, c'est le bâti qui a pris une dimension beaucoup plus importante, parce qu'on a posé des icônes dessus, mais il est là surtout pour soutenir le rideau, en fait. Et donc, on a toujours ce rideau, c'est le voile. Et finalement, il est devenu accessoire dans la tradition byzantine. Enfin, sa dimension a été réduite, mais il est encore bien présent dans les églises monophysites, ou, entre guillemets, donc dans la tradition syriaque. On le retrouvera dans la tradition arménienne, bien sûr, chez les Coptes, chez les Éthiopiens, et voilà. Et autrefois, également aussi, chez les Syriaques orientaux, les Assyro-Chaldéens, même si ceux-ci ont tendance à un peu l'oublier et à le faire disparaître de nos jours. Bon.
Alors, à Erbil, dans la liturgie de l'église assyrienne, il y avait un rideau.
Oui.
Je m'étais rendu une fois et je me souviens
c'est normal,
de la présence du rideau. Hein,
donc dans les dernières réformes liturgiques, on a bien insisté sur la nécessaire présence du rideau. C'est le voile qui permet également de faire une séparation. Dans la symbolique des pères de l'Église, ça nous montre également le ciel, en fait.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'habillement également ?
Ah, il est très étrange, en fait, hein, parce que les prêtres syriaques ont des capuchons sur la tête qui sont un peu étonnants et qu'on ne retrouve pas vraiment dans les autres traditions, ça leur est un peu propre.
On retrouve chez les Coptes ce capuchon,
oui.
Avec les croix.
Oui, tout à fait. Mais outre le capuchon avec les croix que les moines portent, il y a encore un autre capuchon qui se met pendant le temps de la liturgie. Le vêtement principal du prêtre ressemble beaucoup à la chape latine, en fait. Il porte une étole, des manchettes, une ceinture, comme dans la plupart des rites orientaux. Les différents ministres inférieurs vont être en aube avec une étole qui est portée différemment selon le degré de l'ordre qu'ils ont reçu. Le plus bas degré est celui du chantre, qui n'est juste qu'en aube. Et ensuite, on aura des sous-diacres, des lecteurs, des diacres qui vont porter différemment l'étole, en fait.
Et puis les évêques ont un chapeau très particulier.
Très particulier,
également.
Oui. Les évêques latins sont passés à la mitre latine.
Les évêques latins.
Les évêques catholiques, pardon, syriaques catholiques ont adopté quelques aspects du rite latin, entre autres la mitre latine. Mais les évêques. La liturgie pontificale jacobite, enfin syriaque, est très belle, très étonnante, en fait. Le trône de l'évêque est placé sur le côté, à gauche. Et,
avant le rideau.
Avant le rideau, oui.
Et donc le chapeau des évêques syriaques orthodoxes, quelque chose de rond, comme un chapeau d'un vizir, on va dire.
Un turban, en fait.
Voilà, un turban, mais avec pointu. Un turban pointu et d'ailleurs, chez les maronites, c'est le même, mais coupé. Donc, il est plat, au lieu d'être pointu, il se termine par un plateau. Et c'est de couleur noire.
Alors, dans la nef, en général, les hommes se mettent devant et les femmes à l'arrière de la nef. Et puis, on utilise encore uniquement au fait un élément qu'on avait déjà envisagé lorsqu'on avait vu la liturgie chaldéenne, c'est le béma, c'est cette espèce d'estrade, mais qui a tendance un peu à disparaître, mais qui est un élément très important et très primitif, puisqu'il provient des toutes premières communautés chrétiennes. Et une partie de la liturgie, les jours de fête, se fait sur cette estrade qui est en avant dans la nef, en fait.
Voilà. Alors, donc là, on a vu un peu comment s'organiser
l'espace liturgique.
Voilà. Ouais. Alors, maintenant, on va aborder un peu l'histoire de la liturgie au patriarcat d'Antioche.
Oui. C'est une histoire très intéressante, un peu mystérieuse, parce qu'on n'a pas de documents forts, toujours très anciens. Enfin, on en a des anciens, mais il y a un fossé assez important entre les premiers témoignages du IVe siècle et puis les manuscrits qui vont être plus tardifs et de l'époque médiévale. En tout cas, les jacobites, les disciples de Jacques Baradaï, lorsqu'ils vont être organisés en église, vont garder le rite qui était en usage dans le patriarcat d'Antioche. Tout simplement, il n'y a pas de différence liturgique entre les chalcédoniens et les non-chalcédoniens au départ. Et donc, ils vont utiliser la liturgie d'Antioche. Et cette liturgie, en fait, elle est majoritairement la liturgie de Jérusalem. Le rite de Jérusalem, semble-t-il, a colonisé l'usage du patriarcat d'Antioche. Et c'est ce qu'on appelle la liturgie de Saint-Jacques, frère du Seigneur, un premier évêque de Jérusalem. On lui doit le patronage de ce rite. Et cette liturgie de Saint-Jacques a existé en grec aussi bien qu'en syriaque. En grec, actuellement, elle n'est plus célébrée que quelques fois dans l'année à Jérusalem et dans l'île de Xanthe. Les Russes essaient de la remettre un peu à l'honneur, là. Mais ça a été la liturgie ordinaire des églises de Jérusalem et d'Antioche jusqu'aux croisades. La liturgie de Saint-Jacques a été abandonnée par les patriarcats grecs de Jérusalem et d'Antioche, en effet, au moment des croisades, où ils ont accueilli l'usage de Constantinople, en fait. Mais au départ, il faut bien imaginer que ces églises grecques d'Antioche et de Jérusalem ne célébraient pas la même liturgie que le rite byzantin de Constantinople.
Byzantine unifiée.
Elle s'est unifiée pendant le Moyen-Âge, en fait. Là encore, on critique
le centralisme romain,
mais en fait, Constantinople a eu aussi son propre centralisme parmi les orthodoxes au sens grec.
Dans la partie orientale de l'Empire.
Et voilà, tout à fait.
Alors donc, cette liturgie d'Antioche a subsisté dans l'église séparée jacobine.
Voilà. Où c'est la liturgie ordinaire de la messe. Et
est-ce qu'il n'y a qu'une seule liturgie ou plusieurs comme
alors on avait vu
chez les Byzantins.
Chez les Byzantins, il y a la liturgie de Saint Jean Chrysostome, de Saint Basile, et puis aussi de Saint Grégoire le Grand. Et on avait vu chez les Chaldéens qu'il y avait également trois liturgies, celle d'Adaï et Marie, celle de Théodore de Mopsueste, et puis celle de Nestorius, patriarche
d'Adaï et Marie, qui est la plus ancienne.
Et alors là, chez les Jacobites, il y a eu jusqu'à 82 liturgies différentes, 82 anaphores. Alors, toutes ne sont plus en usage, mais beaucoup sont en berne désuétude.
Et toutes à peu près de la même période ou
manifestement,
ça sera longtemps ?
La plus ancienne est bien celle de Saint-Jacques, qui est toujours utilisée en principe pour les dimanches et fêtes.
Donc celle du 6e siècle.
Celle du 6e siècle, mais en fait... On montre assez facilement qu'elle était employée bien avant. Par exemple, lorsqu'on examine les catéchèses que fait Saint Cyrille de Jérusalem au IVe siècle, c'est des catéchèses dans lesquelles Saint Cyrille parle de liturgie et il se réfère manifestement au texte de la liturgie de Saint Jacques, qu'il cite ou qu'il paraphrase. Et donc, on peut imaginer que cette liturgie est plus ancienne que l'époque de Saint Cyrille, et il n'est pas impossible que les plus anciennes formules viennent effectivement de l'époque apostolique. Donc 82 anaphores. Les catholiques de rite syriaque utilisent beaucoup moins, ils en utilisent une dizaine en général. Celle de Saint-Jean, parce qu'elle est beaucoup plus courte et donc elle abrège notablement la liturgie de Saint-Jacques, qui est très très longue. Celle de Saint-Jean Chrysostome, une version de Saint-Jean Chrysostome qui n'a rien à voir avec la Saint-Jean Chrysostome grec en hiver. Une liturgie de Saint-Xiste en été, une liturgie attribuée à Saint-Eustate d'Antioche, une liturgie des Saints-Apôtres, etc.
Alors ça, c'est chez les catholiques et chez les orthodoxes. Combien en reste-t-il sur les 80% à peu près en usage?
Bien, c'est variable en fait, parce que souvent ces liturgies sont éditées sous forme de fascicules et en fait souvent le prêtre choisit un peu celle qu'il a envie de prendre. En fait, les règles d'emploi ne sont pas totalement figées. On peut aller jusqu'à une quarantaine de liturgies en usage encore, ce qui est beaucoup en fait. Hein. Quand même, globalement, le schéma de la messe reste le même. Et ce qui va varier, c'est à partir de la fin de l'offertoire jusqu'à la communion. Grosso modo, le canon au sens romain, l'anaphore, la prière eucharistique pour employer la terminologie moderne. C'est ce qui va changer. Donc là, c'est une grande richesse. Sans doute qu'elle témoigne aussi d'une époque où on avait encore la possibilité d'improviser quelque part les prières liturgiques. Et c'est sans doute la cristallisation de plusieurs...
Ça nécessitait une certaine connaissance.
Oui, quand même. Autour d'un schéma directeur. On a la cristallisation sans doute de plusieurs traditions. Il semblerait quand même que celle de Saint-Jacques soit la plus ancienne et que les autres ont été établis postérieurement, entre le 6e et le 12e siècle.
Alors depuis, est-ce qu'il y a eu des réformes d'importance dans la liturgie syriaque ?
Pas à ma connaissance. On n'a pas ce qu'on a vu chez les Chaldéens. Il y a des usages qui se sont introduits. Alors évidemment, chez les catholiques jacobites, les catholiques syriaques, on a tendance à prendre quelques usages latins de plus en plus.
Retourner les autels.
Voilà.
Absence de rideaux.
Absence de rideaux. Plus anciennement, on n'utilisait plus l'éponge. L'éponge liturgique servait à purifier le calice. Sert toujours à purifier le calice. Chez les jacobites et du coup c'est remplacé par un purificatoire chez les latins, enfin chez
les syriaques catholiques.
Pardon.
Ah non, alors déjà que beaucoup font l'erreur. Si en plus voilà. Vous les induisez en erreur, Henri.
Traditionnellement, toutes ces liturgies étaient entièrement a cappella. Et l'usage de l'orgue s'est introduit à partir du 19e siècle chez les catholiques et même chez les jacobites ensuite au 20e siècle. Et actuellement, à la place de l'orgue, on a plutôt le synthé qui parfois arrive ou d'autres instruments beaucoup plus modernes et barbares et un peu étrangers à ces traditions vénérables. Mais,
puis le micro est arrivé aussi.
Le micro, oui.
Alors vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France de Benjamin Blanchard. Dans cette première partie, je reçois Henri Adam de Villiers, maître de chapelle à Saint-Eugène et à la très sainte trinité des Russes catholiques à Paris. Nous en sommes au troisième épisode de notre série d'émissions à la découverte des églises d'Orient. Et ce soir, nous parlons des églises syriaques. Donc nous avons vu un peu brièvement l'histoire de la liturgie dans le patriarcat d'Antioche et donc dans les églises syriaques. Est-ce qu'il y a des différences dans la liturgie en Inde ?
Moins de différences à mon sens. La différence est moins marquée entre la façon dont on célèbre en Inde et la façon dont on célèbre en Syrie que la façon dont on célèbre en Inde pour les Malabars qui partagent le même rite avec les Chaldéens. Et là, les divergences sont plus importantes. Le rite reste assez identique. On a introduit quand même un peu le folklore indien, peut-être, parfois dans les chants. Et puis, certaines parties de la liturgie sont passées du syriaque au malayalam, la langue majoritaire du Kerala. De même qu'en Syrie, ça fait longtemps que, aussi bien chez les catholiques que chez les jacobites, on utilise l'arabe non seulement pour l'épître et l'évangile, mais également pour...
Ça dépend où.
Ça dépend où, voilà.
Pas dans le diocèse d'Asaké, au nord-est, où tout est en
syriaque.
Puisque c'est leur langue vernaculaire
en fait. Quotidienne, oui.
Et en Irak également, alors peut-être pas à Bagdad, mais dans le nord de l'Irak, tout est en syriaque également, que ça soit chez les catholiques d'ailleurs, ou chez les orthodoxes.
Et dans la diaspora, on voit maintenant des liturgies syriaques célébrées en anglais intégralement. ça se fait, bon, voilà.
En tout cas, en France, par exemple, à Montfermeil, elle est célébrée ni en arabe, ni en français, mais bien en syriaque. Et d'ailleurs, il faut noter que l'apprentissage du syriaque se fait très bien, y compris chez les jeunes générations, et plutôt plus chez les jeunes générations, et dans de nombreux amis syriaques qui ne parlent pas du tout arabe, mais par contre ils parlent très bien syriaque. Et
ça, c'est un vrai enjeu, en fait, parce que avec les bouleversements actuels, on peut craindre pour la survie de cette langue extraordinaire qu'est le syriaque, qui est la langue du Christ, l'araméen, comme les Syriens disent, ou les Assyro-Chaldéens, Dieu parle notre langue, en fait. Et quelque part, ils ont eu raison, puisque l'incarnation s'est faite dans ce substrat araméen. Et il faut se battre absolument pour que la langue araméenne soit étudiée, soit parlée, soit employée dans la liturgie, et ne soit pas abandonnée. Enfin, c'est un vrai combat.
Alors, à ce sujet... Pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent en Syrie, il y aura cet été une série de concerts de musique liturgique, et justement pour étudier les mais pour montrer aux auditeurs les différentes traditions musicales et liturgiques qui cohabitent en Syrie. Et donc sur un même thème, je crois, il y aura à la fois du chant arménien, du chant byzantin, du chant syriaque, etc. Et donc on fera ça à travers toute la Syrie et sûrement on produira un CD, un disque ensuite
formidable.
Qu'on pourra écouter ici. Radio Courtoisie et sûrement qu'on l'aura sur notre boutique de SOS Chrétien d'Orient. Donc voilà un des projets justement de mise en valeur des différentes traditions musicales. Mmh.
Bon, on peut parler de musique justement.
Justement, enfin, allons-y.
Parce que pour les musicologues, je pense le chant syriaque est d'un grand intérêt. En effet, le chant liturgique est organisé en Syrie selon le système des huit tons, on appelle ça l'octoèk, huit tons qu'on va retrouver dans la liturgie byzantine et surtout également dans la liturgie occidentale. Vous connaissez le chant grégorien, il est organisé lui aussi en huit tons. Et probablement que l'origine des huit tons est à chercher à Antioche, peut-être dès le 4e siècle, et ce sont huit modes d'exécution dans lequel les rapports entre les notes principales de chaque mode sont régis. C'est une richesse harmonique beaucoup plus importante que la musique moderne, qui ne connaît que deux modes, le mode majeur et mineur. Là, on a des constructions modales plus fines, plus intéressantes. Bon, je rentre pas dans le détail, mais on pourrait en parler pendant des heures. Et je pense que quelqu'un qui voudrait s'intéresser aux origines du chant grégorien devrait sans doute s'intéresser à la modalité syriaque, car évidemment, on pourrait retracer des parentés.
Est-ce qu'on peut, quand vous parlez de finesse avec tous ces modes, etc., est-ce que ça peut se relier avec ce qui existait dans la musique grecque antique, où il y avait, je crois, beaucoup de modes également.
Voilà, c'est-à-dire que la musique grecque antique n'était pas organisée avec le système de l'octoèque, mais en connaissait davantage encore.
Parce que en fait, j'ai souvenir d'une émission passionnante ici même, dirigée par Catherine Rouvier, sur ce sujet. Donc, j'écoutais de manière très assidue, mais malheureusement, ma mémoire n'est pas si bonne.
Je pense que le système de l'octoèque est vraiment un système chrétien au départ, et on peut bien sûr retracer pour certains modes des archétypes antérieurs de la musique païenne grecque, mais d'une part c'est compliqué parce qu'on n'a bien sûr pas d'enregistrement et les témoignages qu'on a sont très reconstitués, mais c'est à mon avis quelque chose d'assez original qui a dû naître en Syrie et qui a joué un rôle fondamental pour l'histoire du rite byzantin et du rite romain en fait, et du rite romano-grégorien. La plupart des chants dans la liturgie syriaque peuvent être chantés selon les huit modes. Et le choix de tel mode ou de tel mode n'est pas lié au hasard, n'est pas un fruit du hasard, mais est déterminé par la liturgie. En fait, ça marche comment ? Le cycle commence à partir de 8 dimanches avant Noël, le dimanche de la dédicace, c'est à peu près l'Avent. Et donc, chaque semaine, on va employer deux tons. La première semaine, on va employer le premier ton, le premier mode, et puis on va utiliser également son mode plagal. Alors, ceux qui connaissent le chant grégorien savent que les huit modes ecclésiastiques, aussi bien en Orient qu'en Occident, se dédoublent, enfin sont groupés par paires plus exactement. On a un mode autante et un mode plagal. Alors, simplement, on va dire que dans un couple autante-plagal, les deux tons procèdent la même tonique, la note de base, la fondamentale sur laquelle tout se construit est la même. Par exemple, le mode de Ré, premier ton et deuxième ton grégorien. Et ensuite, ce qui va faire la différence, c'est la hauteur de la note dominante, la note qu'on va entendre le plus souvent. Dans un ton autante, cette dominante est placée plus haut, dans un ton plagal, la dominante est placée plus bas. Voilà. L'organisation des huit tons est comme à Byzance, c'est-à-dire qu'on a d'abord 1, 2, 3, 4, les quatre premiers tons au temple, puis 5, 6, 7, 8, les quatre tons plagaux. Alors qu'en Occident, on les a comptés différemment, c'est-à-dire que le premier au temple, le deuxième ton et le premier ton en plagal, et ainsi de suite. Bon.
Et alors, est-ce qu'il y a cette organisation également dans le chant assyrien ?
Non. Le chant assyrien ne connaît pas l'organisation en 8 ans. Donc c'est vraiment propre au patriarcat d'Antioche, je pense.
Il n'y a pas du tout d'organisation ?
Non, il y a, on semble-t-il, trois modes dans le chant assyro-chaldéen, comme en Éthiopie du reste, et c'est sans doute un stade plus archaïque de l'organisation du chant ecclésiastique. Dans le système syriaque, chaque semaine, on va avoir un ton le dimanche, le ton au tente, et le lundi son plagal. Par exemple, si c'est la semaine du premier ton le dimanche, on aura le cinquième ton le lundi, puis le premier ton le mardi, puis le cinquième ton le mercredi, puis le premier ton le jeudi, puis le cinquième ton le vendredi, puis le premier ton le samedi. Certaines fêtes sont réglées aussi avec un ton particulier. Cette musique est entièrement par cœur, comme en Occident jusqu'au 8e, 9e siècle. On a commencé à devoir inventer des signes pour fixer un peu la mémoire défaillante des chantres. Et la difficulté aussi avec les bouleversements actuels, c'est que dès qu'un chantre meurt, c'est des pans entiers de mémoire qui disparaissent.
Parce qu'il n'y a toujours pas d'écriture.
Pas de notation. Et la notation moderne qu'on emploie souvent est impropre à noter précisément l'ornementation, en fait, qui est souvent très fine. Heureusement, on a les enregistrements, on a des moyens modernes, et j'ai pu voir avant l'émission qu'on retrouvait la plupart de ces chants désormais sur des applications, sur smartphone. Les Syriaques sur téléphone intelligent, voilà. Pardon. Et la plupart des Syriaques commencent à s'organiser et à mettre des ressources en ligne très importantes pour que les chantres se forment aussi un peu par eux-mêmes.
Et est-ce qu'il y a une école, un centre de formation pour les chantres dans
les Syriaques ? Je crois qu'il doit en exister. Il me semble que
Alep, au séminaire de Sinaïa.
Oui. Il y a plusieurs écoles qui cohabitaient, en fait. On disait que, par exemple, le chant de Tikrit était très différent de celui de Mardin. L'un des patriarches orthodoxes qui a chanté quasiment tous les chants et qui les a enregistrés. Donc on a une version en ligne d'à peu près 700 chants disponibles. Et c'est une musique intéressante. Elle peut permettre aussi de comprendre le chant grégorien dans ses couches les plus anciennes, probablement. Surtout la notion de rythme, parce que c'est un chant très rythmé. Je pense en grande partie parce que la poésie liturgique syriaque est une poésie rythmée, rimée, on a des maîtres, les maîtres les plus fameux étant celui de Saint-Éphrem et de Jacques de Sarrougue, la plupart des chants, une fois qu'on connaît le maître, on peut appliquer le ton du jour et chanter même sans avoir besoin de notes finalement.
Alors donc, est-ce que cette musique liturgique est restée constante ou est-ce qu'il y a une évolution ?
C'est difficile à dire, puisque évidemment on n'a pas de notation, donc on ne sait pas s'il y a eu des évolutions au cours du siècle. En tout cas,
le synthétiseur.
Dom Parisot, qui est un bénédictin qui a énormément étudié ces chants à la fin du 19e siècle, note que pour lui il n'y a aucune contamination de la musique arabe en fait dans ces chants, et donc les échelles arabes et les altérations classiques de la musique arabe n'y sont pas présentes. Alors c'est sûr que lorsqu'on va écouter quelques pistes, peut-être que ça ne paraîtra pas aux oreilles de nos auditeurs, mais en tout cas c'est ce que constate ce musicologue.
Alors est-ce que vous voulez écouter ?
Alors on va peut-être écouter une première pièce.
Oh,
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard, et nous sommes en train de découvrir l'église syriaque, et plus particulièrement la musique liturgique syriaque avec Henri Adam de Villiers. Alors dites-nous, Henri...
On découvre en même temps la messe, puisque ça y est, la messe démarre, et c'est le Saint Sacrifice en syriaque. Et ce que nous venons d'entendre est la première pièce invariable que chante le chœur pendant que le prêtre prépare les offrandes du pain et du vin avant que la messe vraiment ne démarre. Je vais en lire le texte en français. « En ta lumière, nous voyons la lumière, Jésus, tout de lumière. Tu es la lumière véritable qui éclaire toute créature. Éclaire-nous aux splendeurs du Père céleste. » Ô pur et saint qui habite dans les demeures de lumière, éloigne de nous les passions mauvaises et donne-nous qu'avec la pureté du cœur, nous œuvrons pour la justice. Pendant ce temps, le prêtre va donc faire un premier service qu'on appelle le service de Melchisédek. Il va tout simplement préparer les oblats du pain et du vin, un peu comme le fait le prêtre byzantin qui prépare également les prosphores, les offrandes avant que la messe démarre.
Parce que comme le fait le font à l'offertoire.
Voilà. Et ce que fait par exemple le prêtre dominicain également avant la messe, la préparation du calice. C'est une évolution puisque la préparation des oblats a toujours été à l'offertoire dans à peu près tous les rites. Certains rites ont choisi plus tard de le déplacer avant la messe par souci de simplicité.
Quand vous dites plus tard, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire très tard, c'est-à-dire 6e siècle à peu près, et à partir du 6e siècle. Probablement au moment où les catéchumènes n'existent plus. Donc autrefois, les catéchumènes ne pouvaient qu'assister qu'à la première partie de la messe et étaient chassés au moment de l'offertoire. À partir du moment où on n'a plus de catéchumènes, on peut faire la préparation des offrandes avant la messe.
Parce que tout le monde est baptisé.
Tout le monde est baptisé, voilà.
À la naissance.
À la naissance. Et en Syrie, c'est à peu près sûr à partir du 6e siècle.
Ça ne l'est plus.
Ça n'est plus.
Malheureusement.
Alors, on va peut-être écouter le même chant une deuxième fois, une deuxième version. Là, on a entendu une paroisse syriaque jacobite, la paroisse de Bruxelles. Et c'est un autre enregistrement. Alors, c'est intéressant pour voir l'usage de l'orgue chez les jacobites. Et là, nous sommes à Istanbul, à Constantinople. Et c'est la même liturgie qui est enregistrée. Le chant est légèrement différent, mais substantiellement le même.
Lord.
Alors Henri de Hadentvilliers, rappelez-nous quel est ce chant que nous venons d'entendre.
Donc c'est le premier chant que chante le chœur pendant au début de la messe syriaque, qui est toujours le même. Donc,
Chez les catholiques, il est resté.
Oui, tout à fait. Où on loue le Christ comme lumière. Et en fait, quelque part, c'est l'idée qu'on va à la messe pour recevoir la lumière véritable du Christ, en fait. Ça a lieu pendant la préparation du prêtre avant la messe, ce qu'on pourrait qualifier de prière au bas de l'autel quelque part. Enfin, ça consiste à la fois en la préparation des oblats, l'habillement du prêtre qui arrive au début sans être vêtu de ses habits sacerdotaux et qui s'habille progressivement pendant ses prières préparatoires.
Alors là, la particularité par rapport au chant précédent, c'est que donc celui-ci est accompagné de l'orgue.
De l'orgue.
Un chant un peu moderne.
Oui.
Réalisé. Et donc,
un accompagnement très frustre. Hein,
dans
quasiment,
une paroisse d'Istanbul.
Voilà. À la cathédrale d'Istanbul, la cathédrale syriaque orthodoxe d'Istanbul. Et c'est un enregistrement de 2002.
Et le précédent était enregistré à la cathédrale de Bruxelles.
De Bruxelles, Saint-Georges de Bruxelles en 2014.
Voilà. Donc ensuite, la liturgie, la messe à proprement parler, le Saint-Sacrifice commence.
Va commencer, mais on a encore une autre hymne qui est elle aussi fixe, qui est très belle, dont on va entendre juste la première strophe.
Alors Henri, est-ce que vous pouvez nous donner la traduction de cet hymne ?
Oui, c'est donc la seconde hymne que le chœur chante, ou que le prêtre chante, ici c'était le prêtre, à la messe syriaque.
Donc là il a fini de préparer les oblats.
Il se prépare toujours à offrir le sacrifice, et c'est la même idée qu'on retrouve dans la messe latine, c'est-à-dire qu'on va se reconnaître pécheur, on va reconnaître son indignité avant d'accéder au sacrifice de la messe. Chez nous, on a le Confiteor, et là, ça en tient lieu quelque part. Voici le texte qui vient d'être chanté. « À ta porte, Seigneur, je frappe, et de ton trésor, je demande des grâces. Je suis un pécheur qui, pendant des années, ai abandonné ta voie. Donne-moi de confesser mes péchés, de les délaisser et de vivre dans ta grâce. » Alors, le chant est un peu plus long, je vais lire en français les autres strophes. « À la porte de qui irons-nous frapper, Seigneur miséricordieux, sinon à la tienne ? Qui avons-nous qui plaide pour notre ignorance, si ta miséricorde n'intercède auprès de toi, ô roi, devant la majesté de qui les rois se prosternent ? Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit, sois pour nous un mur de protection élevé et un refuge contre le mauvais qui nous combat et contre ses puissances. » Protège-nous à l'ombre de tes miséricordes, quand les bons seront séparés des méchants. D'éternité jusqu'au siècle des siècles, amen. Que le chant de notre prière soit une clé qui ouvre la porte du ciel, et que les archanges se disent dans leur rang, comme il doit être doux le chant des terrestres pour que le Seigneur exauce si vite leur demande.
C'est très beau.
Oui.
Donc après cet hymne, ce second hymne,
démarre la deuxième partie de l'avant-messe, en fait, qui est le sacrifice, après le sacrifice de Melchizedek, le sacrifice d'Aaron, où le prêtre va lui-même reconnaître son indignité et s'habiller. Va revêtir les ornements sacerdotaux. Et en fait, après ce deuxième sacrifice d'Aaron, commence le troisième sacrifice proprement dit, qui est appelé le sacrifice de Jésus-Christ, qui correspond à la messe à proprement parler. Messe qui va suivre le plan de toutes les liturgies chrétiennes, c'est-à-dire un plan en deux parties. Une première partie, la messe des catéchumènes.
Comme
à Sciences Po, voilà. Et une seconde partie, la messe des fidèles. Donc, plan très classique. Une processions d'entrée, des lectures, un offertoire, le credo pour la partie des fidèles, et puis ensuite la prière eucharistique, l'anaphore eucharistique, autrement dit le canon, le pater, la communion et le renvoi des fidèles.
Et alors, comme je l'avais dit le mois dernier, en dépit des sonorités différentes, des habits différents, de la langue, des langues différentes, en fait, on voit bien que la structure de la messe est toujours la même dans toutes les églises, quand bien même elles sont séparées de la branche principale depuis plusieurs siècles, voire millénaires. Et c'est vraiment très important parce que le credo est le même. Est le même pour tous, et la structure de la liturgie est la même, ce qui montre bien qu'on partage pratiquement ou complètement la même foi.
Alors, la messe va s'ouvrir, on a le temps ou
il nous reste une minute.
Ah non, alors ce ne sera pas le possible, donc ce sera pour la fois prochaine. On commencera la messe proprement dite.
Voilà,
la
donc,
fois prochaine.
Donc
cette fois, on a juste vu l'avant-messe.
Voilà, on a vu un peu le contexte, la fondation de l'église syriaque et son organisation actuelle. Et puis,
sa musique.
Et sa musique. Et puis donc là, on a évoqué les préparatifs de la messe. Et donc dans 4 semaines, nous nous retrouverons pour développer la liturgie syriaque plus en détail. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Oh.